Radio Grand Ciel présente Tournepage, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blum. Aujourd'hui, nous tournerons les pages d'un livre de Éric Ivard, Manoir et Maison des Champs, aux éditions de l'Étrave. Et je suis très heureuse de recevoir l'auteur. Éric Ivard, bonjour.
Bonjour Christiane Blum.
Alors, j'ai beaucoup aimé votre ouvrage.
Merci.
Une jolie couverture, un très beau texte. Et également de très belles photos, beaucoup de photos plus intéressantes les unes que les autres. Alors, ma première question, pourquoi avez-vous écrit ce livre ?
Eh bien, ce sujet me passionne depuis très longtemps, puisque pour écrire cet ouvrage, j'ai ressorti mes cahiers de notes, et mes premières notes datent de septembre 1979.
Voilà, ça fait 30 ans que vous travaillez
et
sur
ce sujet. Et même un peu
plus. Donc, vous pouvez, et c'est ce que vous avez voulu, montrer les différentes caractéristiques de ces manoirs à travers votre travail, à travers votre thèse aussi, parce que
oui.
Vous avez fait une thèse, racontez-nous.
Une thèse que je n'ai pas soutenue, malheureusement. Mais qui est presque terminée, elle n'a pas été, soutenue.
Ah non.
Non. J'espère un jour.
Mais j'espère bien, oui.
Oui. Mais je veux encore travailler la question.
Oui, voilà. Ben remarquez, cet ouvrage peut-être vous a permis aussi d'approfondir certaines choses, j'imagine.
Exactement, tout à fait. Alors cet ouvrage donc est le résultat de 30 ans de recherche.
Oui.
Et ma thèse était portée sur la noblesse du comté du Perche,
oui.
De la fin de la guerre de Cent Ans à l'avènement de Louis XIII. Et dans cette partie de thèse, il y avait un chapitre sur la maison des gentilshommes.
Ah, voilà.
Donc, les manoirs. Et donc, j'ai travaillé la question. J'ai rassemblé énormément de documents après avoir dépouillé des milliers et milliers de pages de notariat percheron.
Ah oui, je veux bien croire, parce que votre ouvrage est vraiment complet. Hein. C'est très, très intéressant.
J'ai travaillé à partir de pièces originales, de documents donc notariés. J'ai retrouvé de nombreux devis de construction, maçonnerie, charpente,
oui.
Choses que des documents qu'on n'avait pas encore utilisés,
oui.
Qu'on avait même quelquefois jamais pas encore découvert.
Ah oui, oui. Ça, ça doit être merveilleux de découvrir, justement, quand on fait des recherches comme ça.
Oui, parce que ça nous permet, lorsqu'on trouve, par exemple, un contrat de maçonnerie, on a le nom de celui qui commande.
Et oui.
Donc, le nom, la date. Ça, oui. C'est formidable de poser une date sur un bâtiment,
monsieur.
Car c'est souvent très compliqué.
Mm-hmm.
On peut se tromper 30 ans trop tôt, 30 ans trop tard.
Oui.
Hein.
Oui.
Et ces documents nous donnent donc la date précise, qui l'a construit, à qui il a demandé de construire ce logis.
Oui.
Donc,
oui.
On a le nom des artisans, la somme.
L'architecte.
Quelquefois, oui, on précise le nom le dessin de l'architecte.
Oui.
Bon, ça, c'est rare dans le Perche. On n'a pas de personne n'ayant pas les moyens d'avoir un architecte. Hein, c'est pas, on travaille pas comme aujourd'hui. Mais les maîtres maçons sont des architectes. Voilà. Comme la famille Crénière, maître maçon et architecte dans les documents,
c'est
à Belém,
oui.
Au début du XVIIe siècle.
Oui. Donc, vraiment de grandes recherches. Je dois dire aussi que votre livre a une belle préface. Racontez-nous.
Alors, j'ai osé demander à Philippe Toussaint, président des vieilles maisons françaises, de me faire la préface. Il a accepté de faire cette préface. Je lui ai fourni le manuscrit du livre, sans les photos, juste le texte. Car le texte a été écrit séparément. J'ai écrit un texte d'une soixantaine de pages et les photos ont été choisies ensuite pour illustrer ce texte.
Et les photos sont de vous
Alors, il y a 425 photos dans cet ouvrage.
Ah oui, ça c'est très important de le dire. 425 photos, c'est merveilleux parce qu'on comprend beaucoup mieux.
J'ai travaillé, alors il y a quelques photos, bien sûr, pleines pages, mais très peu.
Oui.
Je n'ai pas cherché à faire un bouquin de belle image.
Non, non, non.
J'ai cherché à illustrer l'histoire des manoirs.
Mais oui.
Donc, il y a beaucoup de détails. Il y a des planches entières de portes.
Oui, de fenêtres.
De fenêtres, de menuiseries, de serrureries.
Oui, la serrurerie, c'est très, très beau.
De tours d'escalier. Et tout ça classé chronologiquement. J'ai essayé de choisir des éléments qui n'avaient pas été trop remaniés pour que ces portes, fenêtres, ces modèles puissent servir à des artisans du patrimoine.
Oui, mais je pense que tous les propriétaires auront à cœur d'avoir ce livre pour être sûr de ne pas avoir fait d'erreur.
Oui, ou pour pouvoir identifier ou dater une fenêtre, une porte.
Voilà. Je pense que tous les propriétaires de manoirs doivent avoir votre ouvrage. C'est pas possible de ne pas l'avoir parce que on peut vérifier, on peut aussi arranger une maison avec ce que vous dites, ne serait-ce que les couleurs, tout est dit dans votre livre. Hein. Vous parliez de portes, mais il y a les serrureries, il y a vraiment les fenêtres.
L'utilité de chaque pièce, cave au grenier, en passant par la cage d'escalier qui distribue le tout.
Oui. Alors, est-ce que peut-être, donc on a parlé de la préface, j'ai vu aussi que vous aviez eu des aides, alors peut-être expliquez-nous comment vous avez fait, parce que c'est un ouvrage qui a dû vous coûter cher. On ne le trouve pas, je crois, dans toutes les librairies.
Alors, c'est un ouvrage donc, qui a été, j'ai travaillé avec l'édition de l'Étrave,
oui.
À IG, petite maison d'édition locale. J'ai travaillé plus d'un 6 mois avec eux pour mettre en page mon texte et toutes les photos qui illustrent ce texte. Nous avons bien sûr pour pouvoir tirer un nombre maximum d'exemplaires. Nous sommes allés un petit peu à la course aux aides financières.
Oui.
Nous avons demandé donc au conseil départemental de l'Orne une petite aide. Nous avons demandé au conseil régional de Normandie une autre aide que nous avons obtenue, ce qui nous a permis de nous offrir une couverture dure.
Et ça, c'est important. Parce
c'est
que
très
c'est
important, oui.
Un livre qu'on peut emmener avec soi, qu'on peut promener. On risque pas de l'abîmer parce qu'il est quand même une très belle couverture.
Et
une
puis,
belle
bon, ça accroche l'œil aussi. On a fait appel à un photographe professionnel pour notre couverture.
Oui.
On a fait appel à Bénédicte Petit,
oui.
Qui est propriétaire elle-même du logis qu'elle a photographié sur la couverture, qui est la Gobertière. On l'a sollicité à plusieurs reprises, car on voulait une photo un petit peu plus centrée, une photo avec un peu plus de contraste. Et puis, on a osé aussi, une troisième fois, lui demander une nouvelle photo avec la porte ouverte pour que cette photo de couverture soit plus accueillante et qu'on ait envie de rentrer dans le livre,
voilà.
Hein, comme dans le manoir.
Eh bien, écoutez, moi, j'aimerais bien qu'on entre à la Gobertière. Faites-moi entrer à la Gobertière et je suis sûre que nos auditeurs seront très heureux de visiter cette Gobertière. C'est vraiment naissance et renaissance d'un joyau. Alors, je vous écoute.
Alors, la Gobertière, c'est aujourd'hui un des rares manoirs qui peut se visiter. Ces deux propriétaires sont passionnés. Et ont envie de faire partager leur passion donc aux visiteurs, aux locaux, aux touristes. Donc on peut l'été pendant 40 jours visiter ce logis aux journées du patrimoine.
Oui.
On peut demander aussi par écrit une visite pour un groupe.
Oui. Voilà.
Alors, ce manoir est fantastique, il date des années 1500, à peu près. C'est toujours là aussi difficile. Je pourrais pas trouver le contrat de maçonnerie, parce qu'on est vers 1500. Le notariat commence vers 1530, généralement, dans le Perche. Donc, on sait que c'est probablement Louis Gobert qui a fait construire ce logis.
Et ça s'appelle Gobertière et pas Thiers.
Oui, ça c'est vrai. Alors, ici, c'est une famille qui donne son nom à un lieu.
Oui.
car souvent, c'est un lieu qui donne le nom à une famille.
Oui.
Alors, Louis Gobert était à l'origine un homme, un officier seigneurial qui travaillait pour les seigneurs de Nogent et qui, après les seigneurs de Nogent, qui eux avaient fait restaurer leur château de Saint-Jean.
Mais oui.
Ce couple a imité donc les seigneurs de Nogent et ont fait construire leur propre logis au milieu de leur terre.
Oui, il était marié avec Marguerite Dufay,
oui.
Une femme aussi très intéressée par tout ce qui était...
On suppose qu'elle a terminé la construction, commencée par son époux.
Oui.
Il y a plusieurs signes qui nous l'indiquent. La présence d'une effigie représentant Marguerite d'Antioche, donc sa sainte patronne, au-dessus de la porte d'entrée,
oui.
Au sein du fleuron. Au-dessus de la porte, et puis une petite cordelière aussi de veuve pour marquer donc le veuvage ou la fidélité à son époux sur la cheminée du rez-de-chaussée, une des quatre cheminées.
Et d'ailleurs, eux possédaient beaucoup de terres.
Oui, tout à fait. Et la Gobertière était donc leur demeure principale à la campagne, et ils avaient un hôtel particulier dans la ville de Nogent-Retrou.
Voilà. Donc, ce site est situé, en fait, sur la paroisse de Préau.
Entre Préau et La Rouge,
voilà.
Sur les deux paroisses. C'est un logis qui a été habité par son seigneur jusqu'en 1660,
oui.
Donc par les descendants de Louis Gobert et de Marguerite Dufay. Mmh. Et en 1660, le gentilhomme quitte les lieux et abandonne le logis seigneurial entièrement à son fermier.
Oui.
Et ce lieu deviendra donc une ferme jusque dans les années 2005 à peu près, lorsque donc Bénédicte Petit et Ariane cherchent une maison dans le Perche et tombent amoureuses de cet endroit qui était en mauvais état.
Oui, très mauvais état.
C'était donc un domaine agricole, une ferme d'élevage. Donc, et tous les bâtiments étaient un petit peu à bout de course.
Oui, il fallait vraiment qu'elles aient dans l'œil ce qu'elles voulaient faire, parce que moi j'y étais allée et c'était vraiment une ferme.
La chapelle, il y avait du foin. Contre la chapelle, il y avait les clapiers à lapins.
Ah, le chien qui aboyait.
L'humidité partout, le tas de fumier au milieu de la cour encore.
Le
matériel agricole qui traînait un tout petit peu partout. Alors, ce logis avait eu aussi subi quelques désastres.
Ah oui.
La tourelle en encorbellement s'était écroulée sur les très jolies fenêtres du côté cour. La tour l'escalier en vis avait été retiré en pierre.
Ah oui.
Alors donc, Bénédicte et Ariane ont restauré tous ces lieux, refait la couverture.
Oui.
Mais pas la charpente, c'est celle d'origine.
Oui, qui est très belle.
Elles ont remonté un escalier en vis.
Oui.
Elles ont remis les fenêtres, les meneaux, les traverses.
Mmh. Est noyé.
Exactement, tout à fait, tout est enterré, comme au XVIe siècle. Ouais. Ils n'ont plus qu'à allumer la bougie. Garder les carrelages, remis les cheminées un petit peu en état, restauré les portes. Et lorsqu'elles pouvaient, elles ont gardé les portes d'époque.
Oui, mais la porte d'entrée, c'est la porte d'époque, je crois.
Oui, exactement.
Oui, c'est ça. Oui.
Et puis, garder les serreries. Mmh. Simplement, elles ont été remises en état. Mais la ferronnerie et les menuiseries sont d'origine aussi.
Oui, c'est une recréation, en quelque sorte.
C'est une renaissance. Voilà.
Oui,
c'est une renaissance.
Oui.
C'est renaissance d'un joyau.
Je disais recréation parce qu'en même temps, pour elle, ça a dû être une récréation aussi.
Ah oui, tout à fait.
Eh bien, écoutez, un grand merci. Je crois que nous aurons à cœur et de lire votre livre et de voir la Gobertière. Un grand merci à vous.
Merci,
et
Christiane.
Et je signale, chers auditeurs, que vous pourrez retrouver notre émission sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci, Eric Ivard.
Merci.